C'est avec grand plaisir qu'on accueille Mathieu Kay pour cette deuxième partie.
Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors ça me fait plaisir que tu aies présenté et parlé du bouquin. En même temps, ça m'ennuie un tout petit peu parce que c'est presque une autre vie, même si c'est il n'y a vraiment pas longtemps du tout. Le bouquin, il est tiré de ma thèse que j'ai soutenue en 2009. Il a été publié, je crois, en 2013. Il parle effectivement des mouvements de contestation autour des sciences et des techniques dans les années 70 en France. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, j'ai eu énormément de déplacements, à la fois géographiques et puis théoriques et méthodologiques, qui font que ce dont je vais parler aujourd'hui a vraiment très, très peu à voir avec ce que je faisais, en fait, il y a 4 ans, quoi. Même si ça continue évidemment à m'intéresser. Alors peut-être juste pour compléter cette introduction et pour que vous compreniez un peu mieux d'où je parle et puis d'où je viens justement en faisant cette présentation. Donc ma discipline d'ancrage, d'origine, c'est les sciences de l'information et de la communication. Pour simplifier, je dirais que je travaille à peu près comme un sociologue, un sociologue plutôt quali, en faisant des entretiens. Mais que je complète cette méthodologie en travaillant beaucoup sur les textes, enfin des discours, par exemple des articles de journaux que je compile en faisant des corpus et que j'analyse en faisant de l'analyse de discours, donc qui est parfois un petit peu quanti ou on va dire semi-automatisé. Et en m'intéressant aussi, mais ça j'en parlerai pas tellement aujourd'hui, au rôle, on va dire, des images, des symboles qui sont mobilisés. Donc une sociologie qui est matinée d'analyse de discours et de sémiologie, quoi. Ça, c'est pour ce qui est de la méthode, enfin, de la discipline d'ancrage. Après, c'est vrai que j'aime bien dire que je suis chercheur plutôt en études sociales sur la science, ou science studies, ou STS aussi, on parle du champ du domaine sciences, techniques, société, qui est un domaine en fait interdisciplinaire qui a émergé en particulier dans les années 70 à la suite de ces contestations que j'étudiais. Et en fait, domaine dans lequel des chercheurs se sont attachés à montrer, on va dire que c'était un petit peu leur intérêt principal, quoi, à montrer les enjeux politiques et sociaux des pratiques scientifiques et des technologies. Si vous n'êtes pas familier avec le domaine, peut-être juste une manière de l'évoquer. Un bouquin qui était assez important dans l'émergence du domaine, c'est le livre de Bruno Latour. Sur la vie de laboratoire, dans lequel il allait faire de l'ethnographie de laboratoire pour montrer en quoi les pratiques des scientifiques étaient aussi liées à des enjeux qui étaient extrêmement divers et pas uniquement des purs intérêts de connaissance. Bon, depuis, on a fait plein d'autres choses que Latour, hein, je ne me rattache pas particulièrement à lui, mais c'est pour vous donner une idée du domaine. Autre élément de présentation, c'est aussi que donc, je suis un chercheur de plus en plus avec les projets dont je vais vous parler de terrain, c'est-à-dire que je me déplace pas mal géographiquement, je travaille beaucoup, notamment par mon attachement à l'IRD, sur des terrains dans des pays en développement ou émergents. Pas forcément, alors non pas sur la longue durée, c'est-à-dire que je suis pas non plus anthropologue, je suis vraiment, je fais du terrain pendant, on va dire, 2 mois, 3 mois, en faisant des entretiens, mais c'est pas forcément un terrain, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de reconduire des relations, de reprendre les entretiens et d'avoir des relations continues avec les gens auprès desquels j'enquête. C'est pour un petit peu préciser ces questions. Voilà, alors l'histoire du projet, en fait, donc, je suis parti d'un intérêt pour les mouvements sociaux autour des questions scientifiques et techniques, et aussi du désir de voyager, tout simplement, et d'aller en Inde. Et en fait, j'essaie de mêler les deux en allant en Inde pour travailler sur les mouvements sociaux autour des sciences et des techniques, et en particulier de la médecine, c'est ce qui m'intéressait à l'époque. Donc je suis allé en 2010, pendant un été, faire une série d'entretiens avec des acteurs des mouvements sociaux liés à la médecine, qui m'ont en fait tous très bien reçu et en même temps qui me disaient « Bon, ton projet, ça a l'air sympa, mais nous, ce qui nous intéresserait vraiment, c'est d'avoir des choses sur les médicaments et sur la pharmacie, parce que ici, en Inde, à la fois parce que l'Inde est un acteur très important en matière de production industrielle de médicaments, et à la fois parce que localement, il y a d'énormes problèmes d'accès aux médicaments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu bosses sur les médicaments. Donc, j'ai un peu suivi cette idée-là. Et à l'époque, donc, comme je m'intéressais au conflit et que je m'intéressais à voyager et à aller à l'étranger, j'ai voulu essayer de mettre en place un projet d'étude d'une controverse qui était une controverse, on va dire, globale, parce que dans la mesure, bon, après on peut discuter du terme global, mais en gros, l'idée, c'était que c'est une controverse dans laquelle il y avait des personnes de nationalités différentes et issues d'aires géographiques différentes qui étaient impliquées, et donc autour de l'Inde et du médicament. Et c'est ça qui m'a conduit à travailler sur la question des faux médicaments, donc avec plein de guillemets, je reviendrai un petit peu sur cette appellation par la suite. Parce qu'à l'époque, entre 2000, on va dire, en particulier entre 2008 et 2012, il y a eu énormément de débats autour du problème public des faux médicaments et de la manière dont ce problème était pris en charge par un certain nombre d'organisations publiques, privées, étatiques ou autres. Donc je me suis lancé dans une analyse de controverse autour de la question des faux médicaments. Donc cette analyse, elle est à peu près arrivée à son terme au moment où je suis entré à l'IRD l'an dernier. Pour faire un peu de pub, il y a un article un petit peu synthétique autour de cette question qui sort, qui vient de sortir là, dans le numéro de Sciences sociales et santé en mars. Donc c'était un travail d'analyse de controverse en santé. Et en fait, pareil, je me suis encore déplacé dans le raisonnement, enfin, ou dans les centres d'intérêt, on va dire plutôt. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait de plus en plus, c'était pas seulement les controverses qu'il y avait autour du problème public des médicaments ou des faux médicaments, mais c'était la manière dont ce que je vais appeler les flux pharmaceutiques, donc des médicaments qui circulent d'un point à un autre, sont contrôlés par des outils, par des savoirs, par un certain nombre d'institutions et de dispositifs qui permettent d'encadrer les flux de médicaments et si possible, d'avoir des médicaments de bonne qualité qui arrivent dans la bouche ou dans les veines des consommateurs et des patients. Le terrain principal de ce nouveau projet, donc, qui est relativement récent, c'est l'Inde et le Kenya, et les circulations en fait, entre ces deux pays. Alors, pour plusieurs raisons, d'une part, parce que quand j'avais travaillé sur ma controverse, il y avait des enjeux assez forts au Kenya, je vais en parler tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un lien en fait, hyper intéressant entre l'Inde et le Kenya, un lien historique qui est lié aux migrations en fait, des populations sud-asiatiques au Kenya au moment de l'Empire britannique, notamment pour construire un chemin de fer en, fait, en Afrique de l'Est. Puis il y a beaucoup de ces personnes qui sont restées au Kenya et qui ont monté tout un tas de commerces divers et variés. Alors, plusieurs choses intéressantes à ce sujet-là. D'abord, ces personnes, en fait, étaient principalement originaires du Gujarat, qui est une région dans l'ouest de l'Inde, juste au nord de Bombay. Et le Gujarat, c'est aujourd'hui la région d'Inde dans laquelle il y a le plus, à partir de laquelle il y a le plus de médicaments génériques qui sont exportés. C'est-à-dire, en gros, à peu près un tiers des médicaments exportés par l'Inde viennent de fabriques qui sont situées au Gujarat. Et le deuxième élément qui était intéressant, c'est que quand j'ai commencé à faire mes entretiens au Kenya, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans le business du médicament, qui étaient des fabricants de médicaments, parce qu'il y a une industrie du médicament au Kenya, qui en fait étaient originaires d'Inde ou qui étaient indiens ou qui étaient d'une certaine manière liés à des familles indiennes. Donc ça, en gros, ça m'intéressait vraiment bien, du point de vue, on va dire, socio-anthropo, de regarder à la fois des circulations d'objets, mais qui sont entre deux pays, mais qui sont aussi des circulations de personnes et qui sont inscrites dans une histoire. Voilà, donc c'est un peu pour ça que je travaille sur un terrain, qu'on va dire, indo-kényan, un peu entre les deux, ou dans les circulations entre les deux. À la suite de ça, et juste je le mentionne en passant, parce que je vais probablement l'évoquer, c'est rajouté, comme on va dire, le sujet du faux médicament, c'est un sujet relativement à la mode, il est relativement facile, on va dire, d'obtenir des financements là-dessus ou d'obtenir des sollicitations sur ces questions. Et en fait, je me suis retrouvé à travailler avec des collègues sur une question enfin, très, très proche au Cambodge. Donc, c'est un troisième terrain qui se rajoute à ça. Et je travaille sur les circulations Inde-Kenya et maintenant, de plus en plus, sur les circulations Inde-Cambodge. Je vais parler aujourd'hui du Kenya avant tout. Mais j'évoque le Cambodge à deux ou trois reprises, donc c'est pour ça que je le précise. Alors, maintenant j'en viens à l'idée de cette communication. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un article sur lequel je suis en train de travailler. Je suis preneur de toutes les remarques les plus acerbes que vous avez pour faire quelque chose d'un petit peu mieux. C'est quelque chose d'encore assez frais aussi. Ce que je vais montrer, c'est en gros de deux ordres. D'abord, je voudrais partir de la question de la sécurisation des marchés pharmaceutiques. Comment est-ce qu'on sécurise les flux de médicaments donc, à l'échelle internationale d'un pays à l'autre ou sur un territoire national et avec quels outils. Et à partir de cela, je voudrais essayer de montrer en gros l'intrication technopolitique, enfin on va dire technique et politique des enjeux qui sont soulevés par les procédures de sécurisation pharmaceutique. J'essaierai de montrer ça à partir de la présentation rapide de trois techniques ou technologies. L'idée, donc, elle est assez classique. En gros, c'est l'idée de la non-neutralité de la technique. Mais il me semble que ça revêt ici un intérêt particulier dans la mesure où c'est lié à la production des flux pharmaceutiques, à des questions de circulation et d'accès aux médicaments. Le second point que j'aborderai et que je vous soumettrai peut-être plus brièvement et qui est un peu moins bien développé, c'est une réflexion qui est plus théorique autour du gouvernement des flux pharmaceutiques. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle des technologies dans la production des flux, c'est-à-dire dans la production de la légitimité de certains médicaments à circuler, dans la production de leur valeur économique et sociale pour les acteurs qui sont engagés dans la distribution, dans la consommation des médicaments. Donc, c'est un, comme je dis, c'est un point un petit peu moins bien articulé, mais qui m'intéresse parce qu'en gros, il permet d'essayer de faire la jonction entre des réflexions qui sont soulevées par une certaine anthropologie de la valeur et la question, donc autour de la question de la circulation des commodités, et avec la gouvernementalité de Foucault, bon, j'en parlerai un peu plus dans le cours de la présentation. Et enfin, du point de vue méthodo, donc je m'appuie sur des entretiens et sur de l'analyse de corpus. Ça fait 3 ans que je vais à peu près au Kenya, 3 mois par an, et en gros, c'est à partir des entretiens avec des acteurs de la production, de la distribution ou du contrôle des médicaments que je vais construire mon topo. L'intérêt, alors ça, je ne sais pas s'il y a des anthropologues dans la salle, mais bon, en gros, un des trucs qui m'intéressait, c'était d'aborder ce problème des médicaments par le haut, on va dire, c'est-à-dire non pas à travers ce qui se passe dans les marchés informels, parce qu'il y a des très bons travaux sur les marchés informels du médicament, je pense au travail de Christine Peterson au Nigeria ou au travail en France de Karine Baxer au Bénin, qui sont vraiment d'excellents travaux, mais qui partent des marchés et qui regardent comment ça marche sur les marchés. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu d'avoir la démarche inverse et de partir du contrôle et de partir par les acteurs du contrôle, de la distribution, pour voir qu'est-ce qui se passe et comment les problèmes se posent à leur niveau. Voilà, donc, enfin, mon plan. Alors, je vais commencer par présenter le problème public des faux médicaments et comment est-ce qu'il s'est constitué. Dans un deuxième temps, je partirai sur donc, cette question du développement des technologies de contrôle des flux et sur les enjeux politiques qu'il y a autour de ces technologies. Et dans un troisième temps, et pour terminer, j'essaierai de discuter, de présenter les outils et les concepts à partir desquels je propose d'analyser cette situation. Alors, premier point, le problème public des faux médicaments, en essayant un peu de clarifier de quoi on parle quand on parle de faux médicaments. Donc, première précaution, il s'agit d'un problème qui est évidemment un problème très ancien, qui ne date pas d'il y a une vingtaine d'années, qui a eu des formes très très différentes selon les époques, qui est porté par des acteurs qui sont variables avec des stratégies elles-mêmes qui évoluent au fil des ans. Donc pour éviter les équivoques, je ne prétends pas qu'il s'agit de quelque chose de nouveau, mais moi ce qui m'intéresse c'est quand même que depuis les années 1980 en gros, il est posé, ce problème des faux médicaments est posé d'une façon relativement particulière avec des enjeux qui diffèrent quand même des années précédentes. L'idée générale qu'on retrouve assez fréquemment, on va dire, quand on parle des discours médiatiques sur les faux médicaments et sous la plume d'un certain nombre d'acteurs du marché pharmaceutique, c'est qu'on assiste à une croissance, donc depuis, on va dire, une décennie, mais de toute façon, c'est jamais très très précis, c'est qu'on assiste à une croissance du marché non contrôlé des médicaments, et non pas à une croissance non contrôlée du marché des médicaments, même si les deux sont un peu liés. Donc il y a une croissance du marché non contrôlé des médicaments, en particulier dans les pays du Sud, parce qu'il y a une croissance des industries, parce qu'il y a une croissance de la consommation, et parce qu'il n'y a pas de croissance des dispositifs de contrôle. Les pays du Nord sont concernés également, principalement à travers les enjeux liés à la distribution par le web. J'en parle pas du tout, enfin, moi c'est pas ce qui m'intéresse, et en fait, je trouve ça très intéressant plutôt, mais c'est pas du tout le problème sous laquelle il est posé au Kenya. Donc, à partir de ce problème de marché non contrôlé des médicaments, on a un certain nombre de marchandises qui sont fausses, qui sont des copies, qui sont des médicaments sous-standard, substandard, qui sont des médicaments périmés, qui se retrouvent dans des lieux de vente formels ou informels dans les pays en développement ou dans les pays émergents. Souvent, donc, par les médias et par les acteurs qui portent ce problème dans l'espace public, ces médicaments sont rassemblés sous des notions comme faux, contrefait ou falsifié. Ce sont des appellations qui ne sont pas équivalentes et ça pose un certain nombre de problèmes, en particulier regardant la propriété intellectuelle, j'en parlerai plus loin. Mais clairement, c'est des appellations qui sont censées, quand elles sont employées, elles sont censées homogénéiser un ensemble assez disparate de situations, même très disparate de situations, dans lesquelles on a des mauvais médicaments. Donc il y a des mauvais médicaments, il y a plein de manières différentes que ces médicaments soient mauvais, mais la manière dont le problème est formulé dans l'espace public, c'est médicaments faux ou contrefaits. À l'appui de ces discours circulent généralement des estimations, hein, non pas des résultats d'études, des estimations qui sont chiffrées, ou des faits divers, qui sont des faits divers de saisie ou des annonces d'opérations, par exemple. Bon, il y a les opérations qu'Interpol mène dans différentes régions du monde qui sont assez fréquemment, en général avec une régularité annuelle, qui sont médiatisées, les opérations Jupiter, Biella, etc. Voilà, donc c'est un problème public qui ressemble beaucoup à ce que Philippe Juhem a appelé une cause sans adversaire. Pourquoi ? Parce que, en gros, l'idée c'est qui voudrait que les pauvres patients, et en particulier dans les pays du Sud, accèdent à des médicaments de mauvaise qualité, qui mettent leur vie en danger. Évidemment, personne ne peut s'opposer à ce qu'on lutte contre les faux médicaments. Maintenant, je passe aux acteurs qui portent ce problème. Ces acteurs, ils viennent d'horizons assez divers. Bon, je les présente très très rapidement, sinon je vais perdre du temps là-dessus. Il y a des organisations internationales, donc l'Organisation mondiale de la santé, Interpol, l'Organisation mondiale des douanes, des organisations professionnelles, par exemple l'International Nurses Association, des fondations comme la Fondation Jacques Chirac, qui a été assez engagée sur ces questions, des organismes privés à but non lucratif, mais qui sont néanmoins financés par des labos pharmaceutiques. En Inde, aux États-Unis, il y a un organisme assez dynamique qui s'appelle le Partnership for Safe Medicines. Et en France, il y a un institut qui s'appelle l'Institute of Research Against Counterfeit Medicines, qui est financé en très très grande majorité par Sanofi, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est très engagé dans des opérations, alors à la fois dans la production de discours sur les faux médicaments, mais aussi dans des opérations de formation. Par exemple, au Cambodge où j'étais, ils participaient, là, il y a un mois, à une formation des personnels de la police sur comment reconnaître des faux médicaments. Tous ces acteurs partagent bien entendu le souci de lutter contre les médicaments que moi je vais appeler illicites, mais les intérêts qu'ils défendent, évidemment, ne convergent pas systématiquement. Et il y a évidemment on va dire, des solutions qui sont proposées, qui sont relativement contradictoires. Donc voilà, on a une espèce d'ensemble qui est à la fois mu par le désir de lutter contre les faux médicaments et à la fois complètement éclaté et traversé par plein de tensions. Pour enchaîner sur cette histoire, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a que le cadrage de ce problème public donc, a beaucoup évolué depuis les années 80. L'exemple que je peux prendre, c'est deux exemples. Il y a l'exemple au niveau de l'OMS et un exemple au niveau du Kenya. Au niveau de l'OMS, en gros, la question des faux médicaments s'est posée de façon croissante sous la notion de contrefaçon depuis les années 80. Donc le premier événement au cours duquel on parle de médicaments contrefaits, c'est la conférence de Nairobi en 1985. À cette époque, la notion, c'est une conférence sur... Alors, je ne me rappelle plus le titre exact, je ne sais plus si j'ai noté, mais c'est en gros une conférence sur l'utilisation, sur les politiques de rationalisation, la rationalisation des politiques pharmaceutiques. Et à cette époque, la question des médicaments de contrefaçon est toute petite et elle est vraiment encadrée par un souci de rationalisation des politiques d'accès aux médicaments. Donc c'est vraiment, au début, c'est un tout petit point, mais peu à peu, ça va s'autonomiser. Dans les années 90, on a 2-3 rapports qui sont publiés. Et à partir du milieu des années 2000, donc je crois que c'est en 2006, après la conférence de Rome, l'OMS va plus ou moins mettre en place, plus ou moins soutenir, enfin après on peut en discuter si on veut préciser, mais un groupe qui s'appelle le groupe Impact, qui travaille sur la question, c'est International Medical Products Against... Je ne me rappelle plus le... Mais en gros, c'est une task force contre les produits médicaux contrefaits. Donc vraiment, le terme est complètement assumé. Et alors, le problème, c'est qu'après... Tout ça va quand même déclencher des débats, hein, évidemment. Il y a un certain nombre d'acteurs qui vont protester contre l'usage de la notion de contrefaçon parce que c'est une notion qui vient plutôt de la propriété intellectuelle et qui s'intéresse assez peu aux questions de qualité du médicament, mais aussi parce que le groupe Impact, c'est en gros un espèce de partenariat public-privé entre des États, des groupes pharmaceutiques. Il y a pas mal de gens autour de l'OMS qui protestent contre cet état de fait. Donc en gros, entre les années 80, 90, 2000, il y a une espèce de cadrage progressif au sein de l'OMS autour de la question de contrefaçon plutôt qu'autour de la question de la qualité de l'accès aux médicaments. Au Kenya, il y a aussi une évolution. Donc celle-là, je l'ai tracée à partir d'une analyse de corpus. En gros, en très très bref, dans les années 70-80, la question des faux ou des mauvais médicaments au Kenya, en fait, elle se pose, comme dans beaucoup de pays en développement, elle se pose principalement à travers la critique des médicaments périmés qui sont envoyés depuis les pays du Nord à travers différents acteurs. Et il y a beaucoup d'articles contre le fait qu'on a encore retrouvé des médicaments périmés qui avaient été envoyés par telle ou telle fondation ou tel gouvernement. Donc ça, c'est le discours dans les années 70-80 sur la qualité des médicaments. Et en fait, dans les années 90-2000, il y a aussi un discours beaucoup plus sur les questions de contrefaçon et sur la question de la qualité des médicaments qui sont importés par le Kenya depuis des producteurs qui sont des pays du Sud, principalement l'Inde et la Chine. Enfin, il y a l'Inde, la Chine, l'Égypte, la Turquie, mais bon, principalement l'Inde et la Chine. Donc, dans ces deux cas, que ce soit l'OMS ou le Kenya, on a une espèce de déplacement du cadrage, un problème de qualité des médicaments qui devient progressivement un problème de contrefaçon lié à l'internationalisation de la, ou plutôt à, oui, à la diffusion internationale de la production. Il faut aussi prendre en compte dans l'évolution de ce problème l'évolution du contexte. Alors, cette évolution du contexte est d'abord liée à la transformation des marchés pharmaceutiques et avec l'émergence de nouveaux acteurs de la production qui vont être fréquemment nommés des pays pirates pour des raisons de non-respect de la propriété intellectuelle. L'Inde en premier lieu. C'est aussi lié au fait que, évidemment, on a des pays qui développent des compétences et du coup, les Big Pharma du Nord vont les appeler des pays pirates, mais en même temps, ces Big Pharma du Nord vont aussi externaliser un certain nombre de capacités de production dans les pays du Sud. Donc du coup, on a beaucoup de délocalisation et d'internationalisation de la production, ce qui va énormément complexifier les chaînes de distribution des médicaments. Troisième point, c'est que en parallèle à cela, les firmes vont mettre en place des stratégies nouvelles pour produire de la différence, c'est-à-dire les grandes firmes du Nord vont essayer de revaloriser leur catalogue en montrant qu'est-ce qui fait la distinction entre les médicaments qu'elles produisent et les médicaments qui viennent d'autres pays. Je cite juste un exemple qu'on évoquait ce midi, c'est un bouquin qui vient sortir de Jeremy Green, qui est un historien du médicament américain, qui a travaillé sur l'émergence de l'industrie du générique. Le livre s'appelle Generic, et il montre que dans les années 1900, à partir des années 1960, 70, 80, les industries de médicaments de marque vont beaucoup développer de manière de produire des différences, de montrer la dissimilarité entre les médicaments de marque et les médicaments qui sont produits par des firmes génériques. C'est l'exemple de la bioéquivalence et du discours sur la bioéquivalence, qui est une manière d'essayer de segmenter en montrant qu'est-ce qui fait la spécificité des médicaments de marque par rapport aux autres. Donc il y a ces stratégies-là qui émergent. Et alors à partir des années 80-90, on a également les débats sur la propriété intellectuelle, en particulier donc là à la fin des années 90 sur les antirétroviraux, et à la suite des déclarations de Doha qui essayent un petit peu de mettre de l'ordre dans tout ça, des stratégies encore une fois de la part des industries de marque pour renforcer la propriété intellectuelle d'une manière ou d'une autre dans l'après-Doha. Voilà, donc en résumé, pour résumer la façon dont se pose ce problème public des faux médicaments, je dirais que c'est un problème global au sens où on a des acteurs à la prétention globale qui interagissent en permanence avec des États dans la production et la prise en charge du problème. C'est un problème dans lequel on a un enchevêtrement d'intérêts entre accès à des médicaments de qualité, protection de la santé des populations et promotion d'intérêts commerciaux et industriels. Un autre point important, c'est le fait qu'on est passé d'une conception de la safety des médicaments à une conception de la security des médicaments. Donc ça, c'est l'anthropologue Julia Hornberger qui travaille là-dessus, sur le fait que ces politiques anti-contrefaçon, elles entérinent aussi le fait qu'on a une vision, un discours beaucoup plus de criminalisation des contrevenants, de ceux qui produisent des mauvais médicaments, la mise en place de plus nombreuses mesures policières pour lutter contre la circulation de faux médicaments et la promotion de la propriété intellectuelle comme outil pour obtenir des meilleurs médicaments. Et enfin, je dirais que ce qui m'intéresse par rapport à ce problème, et c'est ce que je vais présenter maintenant, c'est moins de prendre parti sur le problème que d'analyser les effets de sa prise en considération. C'est-à-dire qu'on a un problème public qui est porté par des acteurs, et si ces acteurs s'agitent autour de ce problème public, c'est pour que des décisions soient prises, pour que des dispositifs soient mis en place, des lois votées, etc., etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est en gros comment, face à ce problème public des faux médicaments, on a un certain nombre de transformations dans, on va dire, les mécanismes de la santé publique internationale. Voilà. Alors maintenant, j'en passe à mon deuxième point, qui est qui rassemble, on va dire, les enjeux technologiques de la sécurisation. L'idée, c'est que un aspect central dans la lutte contre la circulation de médicaments illicites, c'est la prolifération de technologies de contrôle et de technologies d'authentification. On a un déploiement de savoirs, de techniques, de dispositifs qui sont destinés d'abord à documenter le problème, par exemple des enquêtes ou des tests de qualité, ou qui sont destinés à directement lutter contre ce problème, donc des lois, des opérations de saisie, ou à prévenir ce problème à travers la mise en place de dispositifs, par exemple, de traçabilité, comme les codes-barres ou les hologrammes qui peuvent être apposés sur les boîtes de médicaments. L'idée, c'est que la visibilité accrue du problème des médicaments illicites au cours, on va dire, de la dernière décennie ou des deux dernières décennies, c'est également accompagné d'une multiplication des pratiques et des méthodologies d'enquête, des outils de contrôle et d'authentification. Et évidemment, alors, de mon point de vue, c'est une prolifération de savoirs, de méthodes et d'outils qui m'indique, à moi, grand lecteur de Foucault, les parages conceptuels de la gouvernementalité foucauldienne. Donc des savoirs, des outils, des lois qui forment, en tout cas, ce qui m'intéresse comme étant une manière de gouverner les marchés qui pourraient être proches de la gouvernementalité foucauldienne appliquée à des objets. De ce fait, la notion de technologie que j'emploie, elle n'est pas seulement appliquée on va dire à des techniques biomédicales, elle est aussi appliquée à des techniques législatives. Donc je ne fais pas ça, c'est pas une provocation, c'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est qu'on a un espèce de système technologique dans lequel on a à la fois des outils techniques, des lois, des dispositifs institutionnels, et qu'en fait quand je parle de technologie c'est un peu tout ça qu'il faut regarder et comment tout ça s'agence. Alors maintenant je vais essayer de présenter rapidement comment j'essaye de poser le problème. D'abord, en deux temps, dans cette sous-partie, d'abord en présentant un petit peu le contexte du contrôle de qualité à travers la manière dont il peut être conceptualisé par des textes de l'OMS. Et ensuite, je vous présenterai trois technologies qui me paraissent intéressantes parce que en fait, les acteurs que je rencontrais au fur et à mesure de mes entretiens parlaient tous de ces technologies et en les présentant un petit peu comme des magic bullets, au moins des solutions intéressantes pour lutter contre la circulation de mauvais médicaments. Alors, selon l'OMS, la qualité du médicament, ça recouvre d'une part son efficacité et son innocuité, et d'autre part, sa conformité aux spécifications, donc l'identité, activité, pureté et les autres caractéristiques. Une fois que le médicament est mis sur le marché, le contrôle de la qualité, il porte principalement sur la conformité aux spécifications. Et plus généralement, selon le discours de l'OMS, garantir la qualité des médicaments, ça implique de mettre en place je cite, « un système d'organisation et de surveillance du processus tout entier, depuis l'acquisition d'une substance pharmaceutique jusqu'à sa transformation en un produit fini mis à la disposition du consommateur ». Donc ce système de surveillance, il comprend trois dimensions, juridique, la législation sur le médicament, réglementaire, ce qui définit le cadre d'action de l'organe national de contrôle, avec toute une série d'opérations comme la délivrance de licences et un certain nombre de pratiques d'inspection, et une dimension technique, donc contrôle des normes de qualité, tests et règles de bonne pratique. Donc ces trois dimensions. Dans ce cadre, deux formes de contrôle principales existent, du moins dans les pays du Sud, parce qu'après, c'est vrai que ça se complexifie pas mal. L'inspection, qui va porter sur la conformité des activités professionnelles engagées dans la production et ou la distribution, et le contrôle de la qualité qui est effectué en laboratoire. Et évidemment, dans ces opérations, sont engagées trois catégories d'acteurs principaux, qui sont les fabricants, les autorités de réglementation et les distributeurs. Alors, bon, les pratiques de contrôle, il y en a un certain nombre, là je ne vais pas les développer maintenant, parce que moi ce qui m'intéresse c'est celle que je vais présenter ensuite, mais en gros l'idée c'est qu'on a un certain nombre de dispositions réglementaires, de lois et d'outils qui vont être mobilisés pour opérer des pratiques de contrôle et de sécurisation de la circulation des médicaments. Et l'OMS a mis en place des guides de bonnes pratiques qui essayent d'expliciter comment un État, un gouvernement, devrait effectuer le contrôle de la qualité des médicaments. Mais alors ce qui m'intéresse, et là je passe au deuxième sous-point, c'est que le cadre institutionnel qui est fourni par l'OMS ou par ses autorités de régulation, il fournit uniquement une norme idéalisée et assez schématique de la sécurisation des marchés. Et en fait, il coexiste avec énormément d'initiatives qui vont être prises par les États. Il coexiste avec des solutions techniques qui peuvent être fournies par des entrepreneurs ou des acteurs de la société civile afin de sécuriser les circulations. Donc en gros, pour clarifier, on a un cadre qui est proposé par l'OMS qui va être le cadre des bonnes pratiques, et puis après on a tout ce qui se passe, en l'occurrence dans les pays que je regarde qui vont être plutôt des pays en développement, qui peut être infiniment plus divers et qui n'est pas du tout encadré uniquement par l'État. Il y a énormément d'initiatives différentes qui se développent. L'idée, c'est que, en gros, on a autour de ça tout un marché de la sécurisation qui se développe avec des acteurs qui viennent auprès des États, auprès des acteurs du médicament pour proposer des solutions qui vont vendre, qui vont essayer de faire imposer de manière réglementaire par les États. Et quand ils n'y arrivent pas, ils vont essayer de passer directement auprès des acteurs. Quand je parle des acteurs, ça peut être les producteurs ou les distributeurs de médicaments. Par exemple, une start-up qui propose une certaine solution pour apposer des hologrammes sur les boîtes de médicaments qui vont permettre de mieux identifier les médicaments. Voilà, ça peut être un exemple. Il y en a énormément de différents. Il y a plus d'une centaine de technologies différentes qui permettent de contrôler la circulation des médicaments. Alors, deux caractéristiques importantes de cette prolifération technologique doivent être prises en considération. La première, c'est que, du coup, comme il y en a beaucoup, aucune technologie ne peut être considérée de façon isolée, puisqu'on a énormément de moyens différents et que ce n'est pas toujours les mêmes et que ça ne s'articule pas toujours de la même façon. Et la seconde remarque, qui est peut-être plutôt une hypothèse, c'est que malgré cette inscription des technologies dans des mécanismes qui sont plus complexes, il me semble qu'il est possible de saisir la production de formes de rationalité technique propre. Et donc là, j'en réfère encore une fois à Foucault, sur lequel je reviendrai un petit peu plus loin. Il faut alors tenir compte de ces dynamiques, qui sont des dynamiques communes à différentes technologies, pour essayer de comprendre quels en sont les effets propres. Dès lors, les choix des États ou des firmes en faveur d'une technologie ou d'une autre ne vont pas être neutres, parce qu'ils s'articulent avec d'autres technologies et que tout ça va faire sens et va donner un sens, on va dire, politique aux formes de contrôle qui sont privilégiées par un État ou par des acteurs. J'espère que c'est à peu près clair. J'en viens à mes études de cas ou à mes exemples que je vais présenter assez rapidement. Oui, si, peut-être dernier point sur la théorie, excusez-moi. Les principes d'analyse que je mobilise en vous présentant les cas ensuite, c'est premièrement que toute technologie implique des présupposés ou une définition implicite de ce qui va déterminer un médicament comme étant licite ou illicite. Donc les technologies jouent un rôle dans la construction de la nature pharmaceutique ou de la nature légale ou illégale des médicaments. Et par conséquent, toute technologie légitime des objets et en illégitime d'autres. Il y a bien une séparation qui est opérée quand on utilise une technologie de contrôle du médicament et une manière de distinguer ce qui va être un bon médicament d'un mauvais médicament. Et ce n'est pas toujours les mêmes, et ça s'appuie sur des définitions différentes de ce qui fait un bon ou un mauvais médicament. Alors, maintenant, je présente rapidement les trois technologies qui m'intéressent. Donc, je dis qu'elles m'intéressent parce qu'on en a beaucoup parlé pendant les entretiens et parce qu'en fait, au cours des trois dernières années, elles ont toutes fait l'objet de formes de discussion publique. La première, c'est une technologie d'authentification que je vais appeler, qui ne s'appelle pas le GenVerif, mais c'est un nom qui ressemble, j'appelle ça le GenVerif. Le GenVerif, c'est une télécommande d'environ 20 cm qui permet de scanner des produits. Ça permet de scanner soit l'emballage, soit directement le produit à travers l'emballage. La technologie qui est utilisée, c'est la spectrométrie Raman, qui était une technologie habituellement très lourde, mais qui là est miniaturisée. Et ce qui permet, en fait, l'intérêt, c'est que ça permet à des acteurs qui n'ont pas de compétences techniques pour analyser un médicament, d'obtenir une réponse sur est-ce que ce médicament est authentique ou non. L'idée, en fait, c'est que c'est un outil portable dans lequel il y a une base de données dans laquelle ont été préenregistrés des fréquences chimiques, je ne dis pas de bêtises dans ça, enfin, c'est à peu près compréhensible, de médicaments. Donc il faut les préenregistrer, il faut les enregistrer au préalable, et ensuite on les compare avec le médicament qu'on analyse, qu'on a sous les yeux. Donc par exemple, je suis douanier. J'ai dans mon GenVerif environ 300 médicaments enregistrés. Je vois arriver un conteneur. Je peux passer au crible de mon GenVerif les médicaments qui sont contenus dans ce conteneur pour voir s'ils correspondent, qui ont été enregistrés ou non. Alors, un élément intéressant, c'est que c'est un appareil qui est très coûteux, qui est surtout vendu dans des pays dont les capacités de contrôle sont relativement faibles. C'est-à-dire qu'au moment donc, où j'avais fait cet entretien, je crois que c'était en dernier, le gouvernement nigérien en possédait 6, le gouvernement cambodgien en possédait 5, le gouvernement cambodgien est beaucoup plus... Enfin, le Cambodge, c'est un pays beaucoup plus petit que le Nigeria. Et la France en était munie d'un seul de ces appareils. Parce qu'en fait, en France, on a d'autres outils, évidemment, de contrôle. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le cas du Kenya, cet outil-là a été offert par la compagnie Pfizer en mars 2012 aux autorités de régulation pharmaceutique kenyane, le Pharmacy and Poison Board. Évidemment, ça soulevait un certain nombre de critiques au sein de l'administration et dans certains médias spécialisés, mais pas dans la presse a relayé, la presse quotidienne a relayé l'événement, mais sans aucune critique. Ces critiques, elles étaient donc principalement internes. Évidemment, l'idée, c'était, est-ce que ça ne pose pas un problème de conflit d'intérêts qu'une firme offre à un État un moyen technique de lutter contre les faux médicaments ? Et est-ce que, surtout, le produit qui est offert est configuré uniquement pour identifier des produits de la marque Pfizer ? C'est ce qui m'a été confié plus tard par un des responsables du PPB, qui faisait partie des opposants et qui avait refusé de se déplacer lors de la cérémonie de remise. Après, le Kenya, ça ne leur coûtait pas cher. C'était un cadeau qui, au final, n'a jamais été utilisé, justement en raison de ces oppositions. Mais il y avait quand même l'idée... je ne vais pas répéter la technologie, mais en gros, c'était ça. L'idée, c'est une firme va aider un État. Ce qui est amusant, c'est que la même situation s'est reproduite au Cambodge. Il y a eu exactement le même type de cadeau. Mais en parallèle, le Cambodge, donc, dans la même période, avait été muni par d'autres acteurs, en l'occurrence US Pharmacopoeia et le gouvernement français, de d'autres GenVerif qui étaient configurés différemment. Donc, l'idée, c'est que c'est une technologie qui, là, a été, c'est un cadeau qui n'a pas été utilisé, mais qui a évidemment certains enjeux de contrôle et qu'il ne faut pas non plus sous-estimer dans la mesure où ce que j'ai vu au Kenya, en fait, se produit aussi au Cambodge. Donc, c'est pas non plus, on ne peut pas parler d'un épiphénomène qui serait propre au Kenya, même si, au final, il n'y a pas eu d'usage très fort de ce... Enfin, il n'y a pas eu d'usage du tout au Kenya de cette machine-là précise. Voilà, premier cas. Le second cas, alors c'est un tout petit, c'est donc pas une technologie, c'est une technologie légale et non pas une technologie, on va dire, biomédicale ou technique, je sais pas. C'est le cas de la loi anti-contrefaçon qui a été passée au Kenya, donc en 2008, et qui était destinée à lutter contre les produits contrefaits, incluant les médicaments. Ça concernait d'autres produits que les médicaments, mais les médicaments en faisaient partie. Le problème que ça posait dans le cas des médicaments, et qui a été soulevé par des activistes d'accès aux médicaments, c'est que les produits pharmaceutiques contrefaits étaient définis comme des produits qui contrefaisaient la substance d'un produit breveté, quel que soit le pays où le brevet était détenu. Ça posait deux problèmes. Le premier, c'est que dans le domaine du médicament, la substance, en fait, peut aussi bien renvoyer à la composition chimique, et que la loi menaçait de ce fait la circulation de médicaments génériques qui pouvaient être des copies en substance de produits qui étaient brevetés dans d'autres pays, puisque c'est bien le deuxième point de la loi, c'est produits dont la substance est brevetée dans n'importe quel pays que ce soit. Donc ça posait, il y avait cette loi anti-contrefaçon qui posait un problème, parce qu'elle risquait d'inclure des médicaments génériques que, jusque-là, le Kenya était tout à fait habilité à importer sur son territoire. Évidemment, le problème n'a pas manqué d'être relevé par un certain nombre de militants, d'autant plus que, justement, ce cas-là, il s'inscrit dans des enjeux internationaux. Il y avait plein de cas comme ça. À l'OMS, c'était en discussion. L'Inde avait connu des saisies de médicaments par les douanes européennes entre, on va dire, 2008 et 2011, qui reposait sur la même conception de la contrefaçon pharmaceutique. Donc c'était un problème qui n'était pas du tout isolé. Ce qui m'intéresse, c'est que, évidemment, là, on a une deuxième technologie, qui est une technologie légale, qui définit également l'authentification du médicament, mais ici selon un second critère, qui est le critère du brevet détenu sur une substance, et par extension, on va dire que le critère, c'est la propriété intellectuelle. Donc on a deux technologies qui, à chaque fois, définissent d'une façon différente ce que c'est que l'authenticité du médicament, qui définissent donc d'une façon différente ce que c'est que la bonne manière de sécuriser un marché. On a deux technologies, on va dire, complémentaires, d'une certaine façon. La troisième technologie qui m'intéresse, alors ça, elle était aussi très à la mode au Kenya, et c'est toujours un peu compliqué, c'est un dispositif, alors on parle beaucoup de track and trace et de traçabilité au Kenya, et donc cette technologie, je vais l'appeler Authentiphone, même si elle ne s'appelle pas comme ça. En gros, l'idée, c'était un procédé d'authentification de la boîte du médicament ou du blister à partir d'un code à gratter qui est présent sur la boîte. On gratte le code, on le rentre sur le téléphone portable et le produit peut être authentifié s'il est enregistré dans une base de données. Alors, c'est un projet qui a été je pense qu'il y a beaucoup de généalogies différentes, mais en gros, ce qui était le plus visible, c'est l'invention, elle vient d'un entrepreneur qui est ghanéen. Mais ensuite, il y a eu un certain nombre d'expérimentations, dont une au Kenya. Et donc, l'idée, c'est que l'authentification a lieu ici par l'emballage à partir d'un principe d'enregistrement de la boîte de médicaments, du numéro quoi, qui est sur la boîte de médicaments dans une base de données. Alors, c'est un procédé qui n'a pas vraiment été controversé au Kenya, mais par contre, qui a donné lieu à une expérimentation qui a assez mal abouti. Qui s'est un peu terminé en eau de boudin parce que principalement évidemment ça apposer le numéro sur les boîtes de médicaments ça a un coût qui devait être supporté par les producteurs ou éventuellement les distributeurs mais plutôt par les producteurs et en fait comme l'État kényan s'est pas spécialement engagé dans la promotion de cette technologie. Ben, en fait, l'expérimentation n'a pas donné lieu à grand-chose. Ça s'est un petit peu arrêté. En revanche, encore une fois, tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas d'un épiphénomène. C'est une technologie qui a été, donc, comme elle était promue par un Ghanéen, elle est assez peu... Alors, au Ghana, ils ont un petit peu évolué vers d'autres choses. Mais par contre, au Nigeria, ils ont réussi à se mettre d'accord avec le gouvernement pour que... Alors, je crois que c'est les antimalariques... soit tracé au moyen de ce numéro. Alors, il y a tout un discours sur l'implication du patient. Il y a aussi des enjeux, celles que j'avais vues notamment en Inde sur un dispositif similaire, sur qu'est-ce qu'on fait des bases de données dont on dispose une fois qu'on a des gens qui ont envoyé leur numéro par téléphone portable. On peut bien leur envoyer des publicités ou autres parce qu'on a des informations sur les pratiques de consommation. Au Kenya, ça ne s'est pas du tout posé comme ça. Mais par contre, c'est vrai que je continue à croiser, là, lors de mon dernier séjour, je crois que j'ai rencontré encore trois personnes qui montaient des startups pour essayer de mettre en place un dispositif similaire en essayant de le faire fonctionner. Donc c'est encore une fois pas une technologie qui marche vraiment, mais elle est vraiment dans l'air et elle a quand même des applications réelles, là en l'occurrence dans d'autres pays que le Kenya. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en gros, on a trois technologies qui sont différentes et qui répondent à des types de fraudes ou de malfaçons qui sont particulières. Le GenVerif, ça permet de mettre au jour l'écart à la qualité d'un composant chimique ou d'un médicament par rapport à une base préenregistrée. La loi anti-contrefaçon, elle s'adresse prioritairement à des cas de fraude à la propriété intellectuelle. Et Authentiphone, ça s'intéresse à contrôler la circulation et le transport des médicaments à partir d'une situation dans laquelle on aurait standardisé le packaging des médicaments. L'autre élément important, c'est que ces technologies diffèrent aussi en ce qu'elles révèlent des aspects différents des relations entre l'État, les fondations et les firmes pharmaceutiques. Parce que dans le cas de GenVerif, on a un don qui n'a pas fait l'unanimité, qui a été un peu contesté. Dans le cas de la loi sur la lutte contre la contrefaçon, on pourra développer éventuellement plus tard si ça vous intéresse, mais c'est une loi qui s'inscrit dans une histoire d'au moins une décennie au Kenya où il y a des acteurs qui ont essayé de faire passer des lois un peu similaires puis qui ont réussi à faire pression sur l'Assemblée pour faire passer une loi contre la contrefaçon. Donc là, dans ce cas-là, on a vraiment quasiment des problèmes de corruption au niveau de l'Assemblée pour expliquer comment se fait-il que cette loi a été passée sous cette forme. Et dans le cas, enfin, de Authentiphone, on a des relations entre opérateurs téléphoniques, firmes et États qui sont beaucoup plus distendues, dans la mesure où l'État kényan, le gouvernement kényan, a essayé d'obtenir quelque chose de la part de l'opérateur téléphonique en disant « nous, on veut bien vous soutenir si vous mettez en place des call centers ou des choses qui vont permettre, nous, de nous aider dans, par exemple, nos pratiques de pharmacovigilance. » Mais comme ça n'a pas marché, en fait, le projet est tombé à l'eau. Donc on a des projets différents, des projets qui ont des histoires différentes et qui obéissent à des configurations différentes. Néanmoins, et c'est là donc, que j'en arrive à mon histoire foucauldienne, ce qui m'intéresse, c'est que si on suit la conceptualisation foucauldienne de la raison gouvernementale, il doit être possible d'identifier une rationalité commune à des manifestations. Là, je cite Foucault qui dit qu'il est possible d'analyser la rationalité politique de même qu'on peut analyser n'importe quelle rationalité scientifique. Certes, cette rationalité politique se rattache à d'autres formes de rationalité. Son développement est largement tributaire de processus économiques, sociaux, culturels et techniques, mais elle s'incarne toujours dans des institutions et des stratégies et elle a sa spécificité propre. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces trois technologies, aussi différentes soient-elles, elles mettent en œuvre des conceptions de la sécurisation, de l'authentification et de la qualité dans lesquelles il y a un certain nombre d'éléments de convergence. Alors, tout d'abord, premier élément de convergence, c'est que c'était des technologies qui sont toutes dans l'air en ce moment, à un moment où, comme je l'ai présenté au départ, il y a quand même beaucoup de débats autour de ce que c'est que le problème public des faux médicaments. Mes entretiens avec les acteurs du contrôle tournaient beaucoup autour de ces technologies. Que ce soit au Kenya ou au Cambodge, c'est des choses que j'ai retrouvées. Donc, ce n'est pas uniquement spécifique au Kenya. Deuxième élément, c'est que les acteurs de ces technologies font partie des acteurs qui alimentent le discours sur le problème public des faux médicaments. C'est évident dans le cas de la loi anti-contrefaçon, mais c'est aussi important dans le cas des start-up engagées dans ces processus d'authentification. Troisième point, je dirais que ce sont des technologies qui font sens par rapport aux éléments de contexte que j'ai donnés auparavant. Donc, à la fois nécessité de contrôler la complexité de la chaîne de distribution et nouvelle stratégie des firmes pharmaceutiques pour distinguer leurs produits et pour les mettre en avant par rapport à des produits génériques dans un contexte qui est celui de l'affaiblissement des capacités de contrôle des pays du Sud. Et troisième point surtout, et je terminerai là-dessus, c'est que ces trois technologies reposent en effet sur des principes de contrôle et d'authentification qui sont différents, mais qui convergent. Ils convergent notamment par le fait que ce soit l'authentification par l'identité chimique, par le brevet ou par le packaging, en fait, à chaque fois, est évacuée la question d'une qualité générique des médicaments par des moyens. On a des moyens de singularisation des produits, mais on ne s'intéresse pas du tout à ce qui ferait la qualité générique des médicaments. On s'intéresse plutôt à savoir est-ce que ça respecte un standard initial d'authentification ? Est-ce que c'est donc authentique par rapport à une substance chimique, un brevet ou un emballage enregistré ? Donc on a bien trois technologies qui sont à la fois différentes et qui sont à la fois en relative cohérence. Et surtout, il me semble donc qu'on voit la non-neutralité ou les implications politiques, parce que ces technologies-là, elles font bien sens dans le cadre d'un renforcement du discours sur la marque et sur l'authenticité par la marque ou la propriété intellectuelle, plutôt que par la qualité générique, ce qui allait être plutôt le cas justement dans les années 80 autour du discours sur les médicaments essentiels. Alors, sur le plan de l'organisation de la santé publique, cette rationalité technopolitique, elle pose problème pour un marché qui est appuyé principalement sur les génériques. Au Kenya, je crois que selon les chiffres que j'ai, 56% du marché en valeur ou environ 70-80% du marché en volume, c'est des médicaments génériques. Donc en fait, ces technologies, elles sont à la fois inadaptées et inefficaces pour sécuriser, on va dire, le marché. Sur le plan théorique, ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette analyse de la rationalité technopolitique qui est mise en œuvre, elle m'invite ou elle nous invite à poursuivre un traitement qui serait plus détaillé des articulations entre contraintes économiques des États, stratégie commerciale des firmes et définition de la qualité dans les processus de sécurisation de la santé publique. Parce qu'elle renvoie toutes, d'une façon ou d'une autre, à une conception de la qualité, à une conception de ce qui fait un marché sain, qui est effectivement elle-même ancrée dans une politique et une moralité, on va dire, du marché. Donc, pour finir, il serait inadéquat de distinguer les politiques de qualité et les politiques de standardisation de la construction même des marchés. La sécurisation, ce n'est pas seulement une procédure qui permet d'assurer des formes de circulation préexistantes par des moyens techniques ou légaux, mais c'est quelque chose qui recouvre des processus dynamiques de production, des conceptions normatives de la santé et du commerce, des conceptions des légitimations des formes de production de la valeur qui sont appuyées, là, dans ce cas-là, sur le brevet et la marque plutôt que sur la notion de médicament essentiel. Et pour terminer, je citerai le philosophe Frédéric Gros qui rappelle que la sécurité, au sens le plus général, désigne une conformité des choses à elles-mêmes et la stabilité psychique qui s'en déduit, dans un ouvrage qui s'appelle « Le principe sécurité ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le prolongement de cette remarque, l'analyse des technologies et des dynamiques de sécurisation montre au contraire que cette conformité, elle est elle-même un produit qui est un produit contesté, conflictuel, qui ne cesse de faire l'objet de débats et de confrontations entre les acteurs de la vie sociale. Et de ce fait, la stabilité et la conformité qui sont promises par la sécurisation n'ont lieu qu'à travers la transformation continue de leurs objets. Et je m'arrêterai là, en ayant un peu dépassé, je suis désolé.